Deutsche Welle. Droits et libertés.
Cette semaine, nous nous entretenons avec Nadia Valkov-Diakité, qui dirige à Abidjan la fondation Life Build Us. Elle vient notamment en aide aux jeunes filles qui tombent enceintes durant leur scolarité. Au micro, Sandrine Blanchard, bonjour à tous.
Bonjour, alors moi je suis Nadia Valkov-Diakité de la fondation Life Builders. Je suis la fondatrice et je suis la directrice générale de la fondation également.
Un des thèmes qui vous intéresse, c'est d'aider, d'encadrer des jeunes filles qui sont tombées enceintes durant leur scolarité, ce qui a des impacts énormes évidemment sur cette même scolarité et sur le reste de leur vie. Expliquez-nous un petit peu d'abord ce phénomène. Comment se fait-il qu'en Côte d'Ivoire, il y ait des milliers de jeunes filles, d'après les dernières statistiques publiées par les autorités, qui soient touchées par ce phénomène de grossesse en période de scolarité ?
C'est vrai, il y a à peu près pour l'année 2015-2016, à peu près 4000 jeunes filles qui ont été touchées par ce phénomène-là de grossesse en milieu scolaire. On peut dire qu'il y a plusieurs causes, les facteurs culturels et les facteurs aussi du fait que ces jeunes filles ont été affectées souvent dans le système d'éducation nationale, dans des lieux ou dans des sites qui sont éloignés de leur famille d'origine. Donc elles sont dans des familles d'accueil. Donc il y a une certaine pauvreté qui fait que, une raison économique, sociale, qui fait que ces jeunes filles-là peuvent avoir des petits copains qui subviennent à leurs besoins. On a aussi ce phénomène où les jeunes filles veulent faire comme les adultes, veulent faire comme les autres. On a aussi des cas où les jeunes filles sont totalement ignorantes de l'éducation sexuelle, donc elles n'ont pas vraiment accès à l'information. La famille, c'est difficile, hein, c'est culturel. En Afrique, on ne parle pas vraiment de l'éducation sexuelle avec ses enfants. Donc, elles arrivent à un âge où elles ne connaissent pas bien leur corps et comment les choses se passent. Donc, c'est l'ignorance qu'elles ont des relations avec des garçons sans savoir connaître les conséquences. Et voilà, l'incident est arrivé, elle tombe enceinte. Et aussi, on a des jeunes filles qui, abusées par des adultes ou dans leur communauté ou bien même peut-être à l'école et tout. Mais ça, c'est quand même minime par rapport aux autres cas.
Quelles que soient les raisons de la grossesse, c'est une catastrophe quand ça arrive à une jeune fille qui a peut-être 8, 9, 12, 13 ans selon les cas qui ont été recensés. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de ces filles à ce moment-là ?
D'abord, souvent, elles savent pas ce qui leur arrive et puis elles ne s'attendaient pas à ça. Elles n'ont pas d'éducation en fait, sexuelle, donc elles ne savent pas. C'est une catastrophe pour la fille elle-même d'abord, parce qu'elle est jeune, c'est une enfant en fait. Et ensuite, pour la famille aussi, parce que la famille fonde ses espoirs sur cet enfant. Souvent, ce sont des élèves aussi brillantes, hein. Ce sont des enfants qui ont un parcours normal et tout. Et tout d'un coup, voilà, souvent, elles le cachent pendant longtemps aux parents, mais par finir, les parents le découvrent. Donc, c'est un vrai drame. Alors, il y a des parents qui peuvent... On a un cas, par exemple, où le père a systématiquement a rejeté son enfant et la mère est totalement démunie. Donc ça cause vraiment un vrai drame, un drame psychologique, un drame dans la cellule familiale et qu'il faut gérer. Un drame aussi pour la jeune fille parce que au niveau du regard de ses camarades d'école, elle est très gênée souvent. Il y en a qui ont le courage de continuer l'école avec cette grossesse-là, mais il y en a qui ne peuvent pas affronter les regards des autres et les questions des autres. Donc, arrête l'école.
Donc vous, vous vous adressez à des centres médicaux pour connaître des jeunes filles qui pourraient avoir besoin d'aide. Et qu'est-ce que vous faites ensuite? Qu'est-ce que vous leur proposez?
On s'adresse aux centres médicaux, on va les voir. Donc on est en contact avec des jeunes filles qui sont ou ont déjà accouché ou sont enceintes. On prend contact avec elles, on prend contact aussi avec les parents pour demander l'autorisation de pouvoir parler avec ces jeunes filles et de pouvoir les suivre. Elle est jeune, elle peut continuer ses études, elle peut aller de l'avant, elle peut se projeter dans l'avenir. On construit un projet de vie avec elle.
Et en règle générale, les pères des enfants, je veux dire, c'est les auteurs de la grossesse, est-ce qu'ils sont... Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils sont aussi éventuellement impliqués dans ce suivi, cet accompagnement? Et puis après, quand l'enfant est là, ou est-ce que la plupart ont disparu comme par enchantement au moment où on a découvert la grossesse?
Alors, les pères, généralement, ils ne sont pas bien loin. Ils ne sont pas bien loin, mais généralement, ils sont... un peu réticent à s'impliquer dans ce suivi-là. On a des pères qui sont aussi des enfants, qui sont des élèves. On a des pères aussi qui sont à l'extérieur, dans la communauté, d'accord, qui sont des jeunes, qui ont des petits métiers et qui peuvent donc subvenir aux besoins de ces filles-là avec un peu d'argent. Et donc, c'est un peu ça le piège, mais qui ne sont pas loin non plus. Il y a certains qui décident de s'occuper de la grossesse, de la jeune fille et de rester en contact avec la jeune fille. D'autres disparaissent, évidemment. Pour nous, ce qui est important, c'est que la jeune fille prenne conscience qu'elle doit décider de son avenir.
Alors, à en croire une photo qui est affichée dans votre bureau, vous êtes vous-même la maman d'une petite fille qui a l'air encore jeune. Est-ce que vous savez comment vous allez lui en parler de cette problématique de mère à fille? Est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous avez réfléchi?
Oui. J'ai plusieurs filles, moi j'en ai quatre. Alors j'ai une fille qui a 14 ans, qui a été très impliquée même dans ce projet, qui a fait son stage ici cette année. Elle a écrit un scénario pour qu'on puisse faire une sensibilisation sur les réseaux sociaux, une vidéo. Et elles sont bien impliquées, je parle bien. Celles qui ont 8 ans, un peu moins. Parler de sexualité à 8 ans, je trouve que c'est un peu jeune, quand bien même... On parle de certaines choses, mais pas encore des grossesses en milieu scolaire.
Comment est-ce qu'on aborde ce sujet en tant que mère? C'est délicat. Est-ce que vous attendez les premières questions ou est-ce que c'est vous qui faites le premier pas en mettant des mots, peut-être des mots un peu crus ou des mots un peu précis sur des choses encore largement taboues?
Mais non, moi j'aborde le sujet déjà dès qu'elles ont leur premier cycle menstruel. Donc on parle de la sexualité, on parle librement. Moi j'ai toujours parlé de tout avec mes enfants. Souvent je les appelle, même quand il y a des documentaires. Que ce soit dans tous les domaines, j'appelle, je dis regardez ça, et on commence à débattre, qu'est-ce que vous en pensez, et on commence à discuter sur ça. Et c'était, pour nous, pour moi, avec mes filles, ça a été naturel, parce qu'il n'y a pas de sujet tabou. Mais en général, dans la culture, dans les traditions, on ne parle pas de ces choses-là. Et quand la jeune fille a ses premières règles, c'est tout juste si on lui explique comment chaque mois ça doit revenir et comment elle doit se préparer pour ça.
Alors même que toutes les femmes peuvent sans doute en témoigner, et là je m'adresse plus aux auditeurs masculins, c'est un jour qu'on n'oublie jamais dans sa vie, le jour des premières règles. Ça, c'est quelque chose de capital dans la vie d'une jeune fille ou d'une qui deviendra femme.
Oui. Oui, c'est vrai, c'est un jour qu'on n'oublie jamais, Moi, par exemple, j'avais déjà prévenu mes filles avant que ça n'arrive. C'est un jour qu'on n'oublie pas, mais c'est un jour aussi, même quand on connaît, on sait que ça va arriver, c'est difficile parce que c'est quelque chose de nouveau et c'est vraiment...
Ça fait peur aussi de voir du sang tout à coup. Combien de filles croient qu'elles sont malades?
Ça met dans l'embarras. Ça emmène une gêne. C'est très intime en fait. C'est très très intime. Alors, imaginez des jeunes filles qui n'ont pas eu ce dialogue-là, qui n'ont pas eu cette approche avec leur maman ou avec leur tante ou avec leur tutrice. Ça peut être déjà un choc. C'est le dialogue aussi qui emmène l'information, qui emmène la connaissance dans la vie d'un enfant. Et donc, ça peut protéger l'enfant. Mais quand il n'y a pas de dialogue, quand l'enfant ne sait pas, l'enfant ne peut pas se protéger. Donc, je pense qu'il faut vraiment mettre un accent sur le dialogue avec les parents. Avec les parents. C'est important.
Madame Valkoff, Diakité, un grand merci à vous.
Merci.
C'est la fin de ce magazine. Merci à Nadia Valkoff-Diakité de la fondation Life Builders en Côte d'Ivoire. N'hésitez pas à réagir par mail à français@dw.com. Salut et à la semaine prochaine.